France Inter.
It's morning edition from NPR News.
NCT's in the house.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Est-ce que Minneapolis est le grand zéro d'une Amérique qui frôle la guerre civile ou est-ce le grand zéro au contraire d'une Amérique qui commence à tenir tête à Donald Trump, y compris dans le camp républicain? Nous y venons dans moins d'une minute. Un traité de libre-échange entre l'Europe et l'Inde ou comment l'Europe élargit son marché, c'est ce que nous racontera Louise Baudet qui remet le monde à l'endroit. Le reportage est en Corée du Sud ce soir, dans le bidonville de Séoul, ravagé par un incendie où vivent encore des milliers de laissés pour compte.
C'est toute ma vie qui vient de brûler. Les photos de ma fille quand elle a eu son diplôme. Il ne reste plus rien.
Un reportage à découvrir autour de 18h42. Sous les radars, Guillaume Audat a trouvé le sultanat d'Oman qui se lance à son tour dans la course à l'espace. Et dans la BO du Monde, Cyril Sauvageau va au Népal où pour répondre aux aspirations de la Gen Z qui a fait tomber son gouvernement l'année dernière. Vous vous en souvenez sûrement, le rappeur le plus connu du pays part en campagne pour devenir Premier ministre. Le monde est vaste et on n'a pas une heure. Allons-y.
Ce qui arrive dans notre pays est écœurant. Je ne reconnais plus mon pays. Les agents de l'ICE sont partout. Ils ne respectent pas la loi. C'est écœurant.
C'est un extrait d'un reportage d'Olivier Poujade dans la matinale ce matin à Minneapolis. Donc bonsoir Yasha Munk.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes politiste, vous enseignez à l'université Johns Hopkins et on peut vous lire sur votre site yashamunk.fr. On va déplier ensemble, Yasha Munk, ce que Minneapolis nous dit de l'état des États-Unis. Mais ces dernières 24 heures, deux anciens présidents sont manifestés, Obama et Clinton. On a aussi entendu timidement quand même quelques républicains exprimer leur malaise. On sait que Donald Trump envoie son conseiller à l'immigration, si je puis dire, dans le Minnesota maintenant. On a vu notamment que le New York Post, qu'on ne peut pas soupçonner d'être anti-Trumpiste, titrait encore après l'annonce de la mort de ce jeune homme. Est-ce que Minneapolis est pour vous le moment où on acte quasiment la fin de la démocratie et tout est à craindre pour la suite, ou est-ce que c'est le moment où on acte au contraire une révolte citoyenne, une reculade obligatoire pour Donald Trump ?
C'est une très bonne question. Je ne sais pas vous donner une réponse définitive. C'est peut-être le dos. Alors certainement, on voit qu'il y a maintenant peut-être un territoire des États-Unis qui est presque sous contrôle autoritaire. Ce n'est pas tout le territoire des États-Unis, mais à Minneapolis, ces dernières semaines, on avait presque l'impression d'une occupation par une force hostile à la population locale et pas juste aux sans-papiers, pas juste aux gens qui sont censés être... cherché par cette agence qui doit renforcer donc les règles de l'immigration, mais toute la ville, toute la population, y compris les deux citoyens américains qui sont fait tuer pendant les dernières semaines. Et en même temps, ça commence à être clair que cette opération va bien au-delà de ce que la majorité de la population américaine veut. Jusqu'au point...
C'est ça, y compris chez les MAGA d'ailleurs. En tout cas chez les Républicains, voire au milieu des MAGA, c'est-à-dire les vrais pro-Trump.
Ben oui, en fait, ce qu'on voit de manière générale, si on regarde les sondages sur l'immigration aux États-Unis, c'est que la majorité des Américains à la fois reconnaît la contribution que les immigrés ont fait aux États-Unis, qu'ils sachent apprécier les avantages de l'immigration tout court, et en même temps, pour des raisons complètement raisonnables, qu'ils veulent avoir un contrôle sur la frontière, notamment avec le Mexique, et qu'il y a des majorités qui sont pour des déportations des gens, notamment qui n'ont pas le droit d'être aux États-Unis et qui ont commis des crimes. Mais ce que cette agence ICE a fait depuis que Donald Trump a pris le pouvoir pour la seconde fois à la Maison-Blanche, va bien au-delà de ça. On le voit dans le fait qu'il cherche des gens qui n'ont pas commis des crimes, et on le voit dans la manière dans laquelle ils affrontent des citoyens dans les rues de Minneapolis et des biens de villes, d'autres villes américaines aussi.
Mais ça veut dire que, quand même, c'est en train de devenir... C'est plus une histoire d'immigration, ça devient une histoire très politique et peut-être même un risque politique, cette histoire, non ?
Oui, et là, on voit les premiers petits voix républicains qui prennent ces distances de Donald Trump. Peut-être la nouvelle plus intéressante d'aujourd'hui, c'est qu'un des candidats à devenir le gouverneur républicain de Minnesota, donc dans l'État dans lequel Minneapolis se situe, se retirer de la campagne en disant qu'il ne peut pas soutenir les actions de ICE et qu'il donc il ne peut pas s'associer à un parti républicain qui soutient cette agence.
Ce que j'ai trouvé assez fascinant aussi, c'est que Alex Preti était armé, ça on l'a toujours su, mais du coup le lobby des armes, la NRA, ne peut pas admettre qu'on dise qu'un citoyen doit être pointé du doigt parce qu'il est armé, donc même la NRA, même les associations pro-gun demandent une enquête complète autour de cette histoire-là. C'est quand même très inédit dans cette administration d'avoir contre soi, ou en tout cas dans le doute, quelque chose d'aussi puissant que peut l'être la NRA. Ça dit quand même beaucoup de choses, non ?
Oui, et c'est un fait très intéressant basé dans la culture politique particulière des États-Unis, où il y a donc ce citoyen qui n'a jamais commis un crime, qui était employé dans un hôpital pour les vétérans américains, donc quelque chose qui est vu comme être très patriotique aussi, qui avait un permis de porter une arme de manière pas visible au public. Et dans cette situation, il s'est fait tuer, peut-être en partie parce que il y a eu un malentendu entre les agents de l'ICE le moment où ils ont découvert cette arme. Il y a, comme vous évoquez, la lobby des armes qui dit c'est le droit de chaque citoyen de porter ses armes s'ils ont le permis, comme Preti l'avait. Et maintenant, cette administration, qui normalement est l'allié de la lobby des armes, dit c'est pas notre faute qu'il s'est fait tuer parce qu'il portait une arme. Et ils disent non, ça va complètement contre les principes pour lesquels cette lobby des armes se bat. Alors c'est un conflit assez intéressant, assez étrange entre des partis traditionnels de la droite dure américaine.
Est-ce que vous diriez, Yashamoun, que ICE est hors de contrôle ? C'est un peu une espèce de monstre que Trump a créé et qui lui échappe, en fait. Donc ces gens font ce qu'ils veulent parce qu'ils savent qu'ils ont de toute façon une immunité complète. Ou est-ce que le message que cette administration a donné à ces gens, particulièrement dans le Minnesota, l'État dirigé par un démocrate, l'État qui a toujours été, depuis George Floyd, mais même avant, un État très résistant à l'administration Trump, est-ce que, à votre avis, la consigne, c'était il faut pousser le Minnesota à bout ?
Ce qui est clair, c'est que Donald Trump a toujours mené le message que ICE doit faire tout ce qu'il doit faire pour déporter le plus grand nombre de gens possible, et que chaque forme de résistance à ça est une manière d'être traître. Ils ont recruté énormément pendant les dernières 13 mois avec des messages très extrêmes. Et des nouveaux agents ont une période d'entraînement beaucoup inférieure à ceux qu'ils avaient avant. Ils sont mis dans ces opérations avec une rhétorique très macho, une rhétorique même dans des parties assez xénophobes. Et alors, je crois que certainement, j'imagine pas qu'il y avait la volonté de tuer un citoyen de cette manière, mais c'est d'une certaine manière la conséquence logique des choix politiques et de la rhétorique menée par la Maison-Blanche.
Est-ce que le mot fascisme est un mot que vous employez ? Et je parle de l'altitude d'ICE, mais aussi de la réaction au fond de l'administration qui ne regarde pas la réalité des vidéos. Mais je pense aussi à l'interdiction d'enquêter, pour l'instant, en tout cas sur les morts, parce que c'est pareil pour Ronnie Good de Minneapolis. Je pense aussi à l'attaque des journaux, The New York Times, qui publie un sondage défavorable et qui est attaqué. Est-ce que c'est un mot fascisme que vous prononcez ou pas ?
Je crois qu'il y a certainement des éléments fascistes dans la rhétorique, dans des certaines manières de faire, de l'administration de manière plus large et de l'AS de manière plus spécifique. Il y a eu aussi des slogans menés par des parties de cette administration qui semblent être empruntés presque mot pour mot de la rhétorique fasciste. Au même temps, en tant que politologue, je crois qu'une des formes particulière du fascisme, c'est d'être en forme de totalitarisme. Ça veut dire que ça n'est pas admissible dans un système fasciste d'être apolitique. Il y a une obligation pour chaque citoyen de faire partie des mouvements de jeunesse fascistes, des partis fascistes, des manifestations publiques. Et pour le moment, ce que je regarde comme une forme de populisme autoritaire, si ce soit aux États-Unis ou dans d'autres pays du monde, n'a pas pris cette forme. Dans les États-Unis de l'Amérique, certainement, il y a encore de l'opposition très ouverte. Le New York Times est extrêmement critique de ce que se passe dans le monde. La revue Persuasion que moi-même j'ai fondue est extrêmement critique de tout ça aussi. Et on peut faire notre travail librement. Mais la plus importante distinction, c'est cette liberté des citoyens de dire « je ne m'intéresse pas de la politique, je ne me mêle pas dans la politique ». C'est un choix complètement acceptable dans un système populiste autoritaire, ce qu'il serait pas dans un système proprement dit fasciste.
C'est compliqué d'employer des mots qui ont un pareil sens, hein, Yashamouk, mais du coup je vais en employer un autre. Est-ce que si on ne fait pas retomber cette tension immédiatement, si même il n'y a pas d'enquêtes indépendantes qui sont ouvertes, est-ce que le parfum de la guerre civile, vous le sentez monter, en tout cas cette crainte-là ou pas?
Certainement, ce qu'on voit, c'est des clashs politiques, des batailles dans les rues des villes américaines qui amènent à un nombre important de mortes. Et on a vu ça dans ces deux cas tragiques en Minnesota pendant les derniers mois. Mais en fait, on le voit de jour au jour, de en an aux États-Unis depuis assez longtemps. Et c'est quelque chose que m'inquiète beaucoup. Je peux très bien m'imaginer que ça va aussi monter pendant les prochaines trois ans que Donald Trump reste au pouvoir. Pour avoir une vraie guerre civile, par contre, il faut normalement, il faut soit un État extrêmement faible, comme dans des parties de Somalie, par exemple, soit il faut deux différentes agences de l'État qui sont en conflit direct, ou disons l'armée est de la partie de Donald Trump, mais la Navy est de la partie de son opposant. Pour le moment, on n'est pas arrivé aux conditions dont on aurait besoin dans un État avec beaucoup de capacités comme les États-Unis, d'arriver à ce qu'on pourrait vraiment nommer une guerre civile. Mais tant que ça n'empêche pas des centaines de morts dans les rues pour des raisons de confrontation politique, ça me réjouit pas plus que ça.
On a entendu que ça ne vous réjouit pas plus que ça. Yashamouk, je vous remercie beaucoup de votre passage dans Un jour dans le monde. On y reviendra forcément et probablement très vite. Merci encore. La suite, c'est vous, Louise Baudet, qui remettez le monde à l'endroit.
Avec ce soir un accord du siècle, la mère de tous les deals, on parle d'un traité bientôt signé par les Européens avec l'Inde.
Et juste après ça.
This is why when you tell me that you love me, something you said oh 1 million times. I pretend that I don't care and act like I didn't hear. I even fight back a smile. And this is why when you tell me that you love me, these three words make me want to cry. Imagine what your kisses do when mixed with an I love you. You make me feel like I can only die. You make me hot in December, even my name can't remember. But whenever we're together, babe, what the, I'm scared it's you. name can't remember, but whenever we're together, babe, whether I'm scared, it's you. This is hard when you tell me that you love me. I must be loud and clear, be bold, not shy. I want to forever stay together where we lay, and for you to know you're always mine. You don't need no words to know just how much I love you so. A wise man said long ago, eyes don't
sur France Inter, This Is Why, c'est dans la playlist Le Monde à l'endroit, c'est Louise Baudet.
Fabienne Saint-Esse. Le 18-20.
Louise, pourquoi les Européens s'apprêtent-ils à signer avec l'Inde ce cours sous la von der Leyen appelle la mère de tous les deals?
Eh oui, la conclusion de 20 ans de négociations. C'est le ministre du Commerce indien qui l'annonce ce soir. Avec quelques heures d'avance, la signature sera pour demain. Et avec en prélude l'ode à la joie, l'hymne européen qui a résonné dans les rues de New Delhi aux premières loges du défilé militaire organisé en ce jour de la République indienne, Ursula von der Leyen et Antonio Costa, respectivement patronne et patron de la Commission et du Conseil européen. Invité d'honneur du président Narendra Modi. L'an dernier, c'est Emmanuel Macron qui était à leur place. Le président français qui sera de retour d'ailleurs à New Delhi dans les prochaines semaines. Il y a 10 jours, c'était le tour du chancelier allemand Friedrich Merz. Ballet diplomatique intense qui va donc aboutir demain à la signature du fameux accord indo-européen.
Alors cet accord, qu'est-ce qu'il prévoit?
D'abord un traité de libre-échange. L'Inde doit devenir la 4e économie du monde cette année. Pour Bruxelles, son 1,5 milliard d'habitants est un marché d'avenir. Et pour New Delhi, l'Europe est porteuse d'investissements, d'accès aux technologies, de modernisation et de création de millions d'emplois. L'Union européenne attend notamment que l'Inde réduise ses droits de douane très élevés sur les voitures. Tandis que New Delhi exige des garanties pour ses exportations d'acier vers le vieux continent. Des points de blocage qui ont visiblement été levés, sachant que les deux parties se sont mises d'accord pour exclure du traité un sujet hautement sensible en Europe comme en Inde. Certaines productions agricoles, comme le bœuf, le poulet et le sucre. Narendra Modi a lui aussi dû affronter la colère paysanne ces derniers temps et c'est un des rares sujets qui l'ont fait reculer.
Alors pourquoi tant d'efforts et d'ailleurs des deux côtés?
Alors c'est à ce moment qu'on est obligé de reparler de Donald Trump, de son nouvel impérialisme au détriment de ses anciens alliés et de sa guerre des droits de douane à 50% imposés aux exportations indiennes l'été dernier. Pour les Européens comme pour l'Inde, sceller un accord est une façon de montrer que le reste du monde peut faire sans l'Amérique. Préfiguration de ce que les fameuses puissances moyennes décrites la semaine dernière par le Canadien Mark Carney à Davos, que ces fameuses puissances moyennes doivent et peuvent s'entendre indépendamment des États-Unis de Donald Trump, indépendamment aussi de la Chine et de sa prééminence économique. L'Inde comme l'Union européenne sont en quête de nouveaux marchés pour s'affranchir des taxes américaines et des contrôles à l'exportation chinoise. Elle cherche aussi à envoyer un signal politique selon lequel une troisième voie est possible.
Alors il y a quand même un gros angle mort, Louise, dans cette affaire, et il est russe.
Oui, la Russie, partenaire historique de l'Inde qui lui achète du pétrole et des armes, et la même Russie, ennemi public numéro un des Européens. Il y a là comme une contradiction soigneusement éludée par les dirigeants de l'UE présents à New Delhi, ce qui ne veut pas dire que le sujet est absent des discussions. Bien au contraire, le pari des Européens, c'est que l'Inde, qui est le pays qui achète le plus d'armes à l'étranger dans le monde, intensifie ses importations européennes, notamment de rafales français et de sous-marins allemands, et que le géant asiatique quitte petit à petit l'orbite de Moscou. Objectif stratégique du partenariat de défense et de sécurité, l'autre accord qui doit être signé demain.
Merci beaucoup, Louise Baudet. Le reportage. Le reportage d'un jour dans le monde, c'est un jour en Corée du Sud. Ce soir, vous ne l'avez sans doute pas vu passer, moi non plus je dois dire, mais le 16 janvier dernier, un gigantesque incendie a ravagé la majeure partie du dernier bidonville de Séoul. Le bidonville, c'est l'image qu'on ne veut pas voir. Celui-ci en plus était installé juste en face des luxueux immeubles du quartier Gangnam. Les maisons de tôle abritent pourtant encore entre 1500 et 2000 personnes vivant dans la misère et en attente depuis plus de 30 ans d'être relogé. Le reste, c'est Célio Fioretti qui raconte.
Il ne reste que des cendres des 160 foyers détruits par le plus grand incendie de ces 40 dernières années à Gulyong. Seuls les corbeaux arpentent les ruines à la recherche de nourriture. Aucune victime n'est à déplorer, mais près de 200 habitants ont été déplacés. Nous retrouvons l'une d'entre elles, Park Chun-soo, 76 ans, qui prend le thé dans un abri de fortune installé à l'entrée du village.
Ça faisait plus de 30 ans que je vivais là. Je ne vis pas sur les aides. Je travaille tous les jours à frotter les gens dans les bains publics. C'est toute ma vie qui vient de brûler. Les photos de ma fille quand elle a eu son diplôme, il ne reste plus rien.
À mesure que la ville de Séoul se développait à la fin des années 80, les plus précaires, ne pouvant s'offrir un logement, furent repoussés à la marge jusqu'à construire ce bidonville adossé à la colline. Nous rejoignons dans son bureau Yoo Gui-bom, le chef du village. Il nous raconte comment cet endroit s'est créé.
Honnêtement, c'est une honte nationale. À l'époque des Jeux Olympiques de 1988, comme beaucoup d'étrangers allaient venir en Corée, on a jugé qu'il ne fallait pas leur montrer ces quartiers pauvres. Et on a procédé à des expulsions forcées qui nous ont conduits ici. 40 ans ont passé, la ville s'est développée, mais ici, rien n'a changé. On vit toujours dans des abris de fortune.
Un quartier pauvre, mais convoité par les promoteurs immobiliers.
Les terrains valent cher à Séoul et les promoteurs immobiliers, comme la mairie, cherchent un bénéfice à construire des grandes résidences ici. C'est pour cela qu'ils réclament notre départ depuis des années. Les habitants ont l'impression qu'on cherche à les chasser, comme dans les années 80. Les incendies répétés font naître des soupçons. Est-ce qu'on ne mettrait pas le feu volontairement pour nous expulser ?
Aujourd'hui, près de 200 personnes ont perdu leur maison. Où vivent-ils désormais ?
Aujourd'hui, les habitants ont été relogés à l'hôtel pour 10 jours. Mais après ces 10 jours, aucune solution n'est prévue. Les habitants parlent de lutte, de manifester pour leurs droits, mais pour l'instant, ils ont tout perdu. Ils ont fui pieds nus, sans rien. Ils sont sous le choc, traumatisés. Plus tard, quand la situation se stabilisera, ils devront se réunir et élaborer des solutions.
Nous retrouvons Park Chun-soo pour la première fois depuis l'incendie. Elle visite ce qui était autrefois sa maison et son quartier et peine à contenir son émotion.
Là, il y avait l'épicerie. Ici, c'était le salon de coiffure. Ici, c'est pauvre mais chaleureux. Tout le monde s'entraide. On fait notre cuisine ensemble. Tout le monde se connaît. Ça, c'était ma vaisselle la plus précieuse. Je ne voulais m'en servir que le jour où j'aurai enfin un appartement. Il n'en reste que des morceaux.
Depuis plus de 10 ans, la mairie de Séoul annonce des plans pour détruire le bidonville, mais aucun n'a réellement porté ses fruits à cause de disputes entre les habitants et la mairie, explique Park Chun-soo.
Nous voulons que nos habitations soient reconnues comme des logements, certes illégaux, et nous partirons. Mais la ville considère notre village comme un terrain d'élevage d'animaux, ce qui nous empêche de vendre le terrain ou d'avoir droit à une compensation ou un logement social si l'on part d'ici. C'est absurde. On nous demande de quitter notre maison sans rien nous donner en retour.
40 ans et près de 30 incendies recensés à Gulyong, l'insalubrité des logements, le réseau électrique improvisé ou les poêles à charbon sont souvent à l'origine de ces drames. Si Park Chun-soo et ses voisins ont perdu leur maison, ils souhaitent garder leur dignité et enfin obtenir de la mairie de Séoul la reconnaissance de leur situation et une compensation pour vivre en sécurité.
Célio Fioretti pour le reportage, merci beaucoup. La suite, ce soir c'est vous Guillaume Audat qui regardez l'actu internationale planquée sous les radars.
Sous les radars en Australie où la fête nationale en est une ou pas vraiment selon que vous êtes blanc ou aborigène.
Et la BO du monde Cyril Sauvageau.
Au Népal après les manifs de la Gen Z, un rappeur brigue le poste de Premier ministre.
Mais ne bougez pas les amis, le tour de la planète continue, il passe par l'Écosse avec Finlay Quay, avec des petits bouts de Bob Marley à l'intérieur. Sunday Shining, c'est le titre. Pour oublier qu'on est lundi, hein. Que lundi. Encore lundi.
Déjà.
Toujours lundi. Sunday Shining, ça date de 97, dites-moi, sur France Inter et dans Un jour dans le monde, sous les radars, c'est maintenant.
Australian, I want to celebrate this day, but I just think we need to acknowledge that it was a pretty sad day for all our Indigenous people.
Aujourd'hui, c'est jour de fête nationale, c'est ce que nous dit cette femme qui défile dans les rues de Sydney. Je suis fière d'être australienne, mais je veux aussi me rappeler que c'est un jour triste pour la communauté indigène.
Et elle a participé, cette jeune femme qu'on a entendue, comme des dizaines de milliers d'autres Australiens à travers tout le pays à des défilés alternatifs, des marches pour la journée de l'invasion. C'est ainsi que les Aborigènes nomment cette journée si particulière en Australie. Chaque 26 janvier, on commémore le débarquement en 1788 de la First Fleet à Sydney Cove. 11 navires britanniques, 1400 personnes à bord, essentiellement des repris de justice avec quelques soldats et des administrateurs pour encadrer tout cela. C'est l'acte fondateur de l'État australien pour une partie du pays. Cette journée est un moment d'unité nationale, mais pour de nombreux aborigènes, en revanche, et leur soutien, c'est au contraire le début de la colonisation, des spoliations, des violences. 238 ans plus tard, la question fracture encore. À Melbourne, des heurts ont éclaté entre militants anti-immigration et des manifestants qui marchaient en ce fameux jour de l'invasion.
Plus personne n'empêchera Xi Jinping d'attaquer Taïwan. C'est une star des réseaux sociaux taïwanais qui s'enflamme après une série de purges au sein de l'armée chinoise.
Alerté, radicalisé, choqué, c'est l'ADN de Musicline 1107, un influenceur anticommuniste recherché par Pékin. Il pilote sur YouTube une chaîne taïwanaise ultra virulente, 1 300 000 abonnés. Un média qui mêle commentaires politiques, satire agressive et hostilité franche à Xi Jinping, le président chinois, et évidemment à toute perspective de réunification. Alors, je le concède, ce n'est pas forcément la source la plus fiable du monde, on excuserait Fabienne, mais c'est un indicateur assez pertinent du climat qui règne à Taïwan, et particulièrement après que le ministre de la Défense a dit lui-même observer avec inquiétude, je cite, des changements anormaux au sein de l'armée chinoise. Deux généraux chinois de très haut niveau, dont le bras droit militaire du président, ont en effet été limogés, accusés par le pouvoir à Pékin d'avoir divulgué des secrets nucléaires à Washington. Lecture du côté de Taipei, mais aussi de la plupart des stratèges. Le voisin Xi Jinping purge et écarte ses rivaux chez les gradés. Il veut avoir les coudées franches pour longtemps et une armée prête à s'emparer de Taïwan d'ici à 2027.
Oman est quietly and now visibly stepping into the regional space conversation alongside the UAE,
and Saudi Arabia.
Le Golfe. Guillaume entame son odyssée de l'espace. Ouverture ce lundi d'un salon des étoiles au Sultanat d'Oman.
Et je vous fais les sous-titres. Moins de pétrole, plus de satellites. En clair, le Golfe prépare la fin des hydrocarbures, sort son télescope et se met à regarder les étoiles avec appétit, mais surtout avec beaucoup d'argent. Je vous donne un chiffre et un exemple. Les Émirats Arabes Unis, ils sont leaders du spatial dans la région. En 2019, Abu Dhabi dépensait environ 38 petits millions d'euros par an dans ce secteur. 7 ans plus tard, c'est 14 fois plus, 5,3 milliards d'euros par an en recherche et développement. À titre de comparaison, la France, qui lance des fusées Ariane, c'est un peu plus de 3 milliards d'euros, un peu moins donc, chiffre communiqué par le Centre National d'Études Spatiales. Revenons dans le Golfe et à Oman. L'idée de ce salon spatial du Moyen-Orient est aussi de se projeter au plan militaire. La guerre en Ukraine a montré qu'un pays dépend beaucoup des satellites pour communiquer, frapper et se défendre. En plus de ces projets technologiques, ce sont aussi d'autres alliances avec la Chine et la Russie, pourquoi pas, que le Golfe entend développer.
Guillaume Auda, à demain Guillaume. Le lundi, Cyril Sauvageau écoute la musique que fait le monde en tournant, c'est la BO du monde.
France Inter, le 18-20.
La BO du Monde au Népal ce soir. Cyril, 4 mois après la révolte de la Gen Z qui a fait tomber le gouvernement, un rappeur se lance dans la course au poste de Premier ministre.
Eh oui, l'idée peut paraître saugrenue, mais rien n'est impossible en ce moment dans ce pays où la jeunesse a balayé le pouvoir en place en 48 heures. Le rappeur Balencha, alias Baleine, a donc décidé de partir au combat. Il vient d'annoncer sa candidature aux législatives de début mars. Népal Azeko, on entend ici l'un des derniers titres sortis par ce rappeur. Il y est question des tensions qui traversent la société népalaise ces dernières années et qui ont conduit au soulèvement de la Gen Z. Dans les manifs géantes qui ont secoué le pays en novembre, la musique de Balencha était partout, jouée, reprise en chœur par les manifestants. Même si Balen lui-même ne s'est pas affiché en première ligne du mouvement, il bénéficie d'une cote de popularité rare auprès de la Gen Z. C'est ce que confirme ce jeune manifestant, Pranil, 21 ans, rencontré à Katmandou par Cécile Bideau pour le magazine Interception.
New leaders like Balencha.
Pour nous, Balencha est le seul homme politique valable.
Ready to lead the country.
Tous les autres ont la soixantaine. Lui a plutôt dans les 30 ans. Il a une vraie vision, il est très éduqué et il a de l'expérience.
Vous pensez qu'il peut devenir Premier ministre ?
Oui, c'est possible qu'il soit le principal candidat. Mero masako maskini maya lumarfa kumadira
ni alda nureko na yanuruba na shako na dima. Alors, il faut dire, Cyril, que Balencha n'est pas un novice en politique.
Hein. Et oui, à 35 ans, cet ingénieur de formation a déjà derrière lui un mandat de maire de la capitale, Katmandou. Élu à la surprise générale en 2022, après une campagne sur les réseaux sociaux, Balencha a déjà pu mettre en application certaines idées qu'il prône dans sa musique, à commencer par la lutte contre la corruption, symbole d'un système à bout de souffle. C'est le sujet de ce morceau, l'un de ses premiers tubes en 2020, Badilan. इतिहास के फेरिए न बाकी हुदा इतिहास मोह मेटिए न कहाँ कुछ रेल यहाँ बाटो भेटिए न कलाकारलाई जेल मूर्ख लाटोले बुझेन जंगल भयो फडानी त्यो आगो नै निभेन सातोपको सलामीमा बाटो नै थिएन कसरी पो बन्छ देश विदेशी माटो किनेर हेर त्यो मुटु चिरेर छिमेकी नै तिम्रो मनमा त्यो आत्मीयता होइन आँखा लाग्छ तिमीले धनमा अपराधी देशमा छन् घुमिरहेको साइरनमा सफा पानी चढाएको छ आउँदैछ रे साइकलमा फोकटमा बेच मेलम्ची कसले ल्याइरहन्छ maire aura surtout permis d'installer l'image d'un dirigeant jeune mais responsable, capable de prendre à bras le corps des chantiers importants, que ce soit les transports ou l'accès à l'éducation. Mais ce bilan n'a pas complètement occulté l'image d'un personnage un peu complexe, renfermé, réputé fragile psychologiquement, des traits de caractère qui risquent peut-être de ressurgir au moment où Balencha espère convaincre les Népalais de lui confier les rênes du pays.
Et du coup, pour augmenter ses chances, le rappeur a décidé de s'adjoindre un colistier.
Une personnalité très médiatique. politique en la personne de l'animateur télé Rabi Lamishan. Fondateur d'un parti centriste qui a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille, Rabi Lamishan incarne lui aussi le vent de changement que réclame la jeunesse, même s'il a déjà fait partie un temps du précédent gouvernement. Les jeunes inscrits massivement sur les listes électorales pour ces élections porteront-ils au pouvoir ce rappeur maire et son allié? Baleine a déjà promis une chose, quel que soit le résultat, il continuera à rapper et parfois d'ailleurs en anglais. I can carry any attitude, all you got is Mary Jane. All I got is gratitude, you lost in your fairy tale. I go hard like a blast test. AK shot fire is the closest on my wet mix. Get inside my semen of the closet full of wet lips. This is how I do hallucinate like a
donc, nous, si on avait un premier ministre qui rappait, Cyril.
Voilà.
Pensons-y.
Qui viennent, là.
Pensons-y, oui.